de Champfleury, la princesse au rire de Mouette. Vit-on jamais plus capricieuse personne que la princesse? Chaque hiver, son salon était peuplé de figures si nouvelles qu'on se disait à l'oreille « La princesse a donné son grand coup de balai ». Et en effet, devant la cheminée, où discutaient l'année précédente des diplomates et des hommes politiques, étaient assis maintenant de hauts fonctionnaires de l'Église, des dames de charité, de sévères douairières. La discussion sur les affaires européennes avait fait place à de religieuses conférences, à des loteries charitables, à de pieux bazars dans lesquels se vendaient des objets dont le prix était destiné aux pauvres. Alors la petite princesse, elle était de taille fort mignonne, habillée en demoiselle de magasin, souriait à tous les acheteurs avec un charme à faire pâlir de jalousie les grisettes blondes et brunes qui emplissent les magasins de mode de la rue Vivienne. Une autre année, la petite princesse, ayant fait son salut par les œuvres de charité, remplaçait les gens d'église par des académiciens. Même l'Académie des inscriptions envoyait des représentants chez celle qui savait attirer par ses coquetteries les ours les plus mal léchés de la science. N'est-ce pas un hommage considérable rendu à cette charmante et capricieuse personne que le distique suivant d'un géomètre absolument étranger à toute poésie, et qui pourtant, touché par des charmes qui faisaient battre son vieux cœur, improvisait pour la princesse les deux vers suivants qui n'avaient pas mis au moins 8 jours à combiner. Sur votre beau bras, je voudrais mettre un long baiser d'un demi-mètre. Oh, une femme qui inspire de tels vers un géomètre, lancé dans l'ardeur du problème, peut tout. Aussi, la petite princesse avait-elle une certaine influence dans les élections académiques et lettrées, poètes et savants qui briguaient d'entrer à l'Institut, regardaient comme une précieuse faveur d'être reçue dans ce salon si changeant. L'année suivante, plus de pieuses conférences, plus d'intrigues académiques. Il fallait faire preuve d'idéologie pour être admis chez la princesse. C'était une bande d'utopistes qui pétrissaient la société à leur manière, réformaient les passions, prétendaient changer les forçats en Saint-Vincent de Paul, chantaient la quadrature du cercle, proposaient des parquets mobiles où chaque danseur levait accomplir une mission utile pour l'humanité, c'est-à-dire boirer du blé en Paul Wallon, en Paul Kahn. Honnête rêveur qui se croyait positif. Le salon était alors rempli de gros livres où étaient consignées les utopies de ces chercheurs. Et l'imprudent qui eut parlé des nouvelles du jour eût été traité comme un être superficiel et choquant. Un grand coup de balai débarrassait de ses excentriques la princesse, qui tout d'un coup s'enthousiasmait pour la comédie. On ne voyait plus alors que gens de théâtre, auteurs dramatiques, franchir la porte de l'hôtel, et la saison se passait à répéter des proverbes sur la représentation desquels l'auteur comptait pour faire oublier Marivaux. Mais avril arrivait et la princesse s'envolait pour ne revenir que 6 mois après, escortée de mystiques, d'idéalistes, de magnétiseurs, de tourneurs de table et d'esprits frappeurs. Des ombres illustres étaient à évoquer, qui poliment venaient prendre part à la conversation. Mais le décor changeait encore et tous ces charlatans aller chercher des dupes ailleurs. Ainsi, tour à tour, on vit défiler dans ce bizarre salon des lettrés, des financiers, des peintres, des gens de robe, d'illustres industriels, des gens d'épée, des imbéciles et des sots, des grandins d'une musique irréprochable et des savants à la chevelure emmêlée. On eût pu appeler cette étrange personne la princesse Caprice. Ses intimes l'avaient surnommée la Mouette Rieuse, car toujours elle riait, n'importe quel sujet fut traité devant elle. Mais son rire était singulier. C'était de tio, 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 plein de ravissement. Quelquefois, elle paraissait d'écouter avec une grande attention celui qui avait l'honneur de lui parler et ne lui répliquait que par un tsi-tsi-tsi-tsi, non pas moqueur, mais qui semblait montrer qu'elle avait compris. Dans les rapports habituels de la vie, la petite princesse répondait à tort et à travers comme si elle avait à peine entendu. Mais on lui pardonnait à cause des fantaisies qui emplissaient son esprit. Et il était plus curieux de l'entendre babiller comme un oiseau que d'entamer avec elle une conversation suivie. Car, par parti pris sans doute, tout compliment elle le recevait avec un terminé par une sorte de fusée joyeuse et ce système de défense inconnu jusqu'alors avait effarouché nombre de soupirants. Aussi ne s'étonnera-t-on pas de la réputation parisienne attachée à cette femme inexplicable. On se demandait, a-t-elle de l'esprit? Et ceux qui l'étudiaient de près n'avaient recueilli que le tio, 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 tio étrange qui se faisait entendre d'un bout à l'autre du salon. Quelqu'un prenait-il part à la petite princesse? Elle le regardait d'un regard bleu profond qui en trouvait à un coin de ciel, et chacun subissait ce regard hardi et timide à la fois, doux comme celui d'une jeune fille, qui pourtant semblait renfermer quelques vagues inquiétudes. La petite princesse lassa jusqu'à la curiosité des chroniqueurs, qui se rejetaient forcément sur ses élégantes toilettes, ne pouvant découvrir le secret d'une femme qui allait contre toute étiquette. Avec ses yeux de naïade inquiète, sans cesse la princesse était à l'affût d'étrangetés, et l'anecdote fit grand bruit d'un vieux légiste de l'école de droit qu'elle enleva comme par enchantement un soir qu'il traversait le pont des Arts pour l'introduire dans ses habits noirs fatigués à un dîner de l'hôtel Chamalel où il fit une étrange figure. Le juriste avait été un des invités de la princesse 3 ans auparavant, à une époque où l'on ne traitait dans son salon que d'histoire de droit et d'économie politique. Craignant de s'ennuyer un quart d'heure, la petite princesse fit monter le vieux professeur dans sa voiture pour le transporter au milieu de la société la plus aristocratique du faubourg Saint-Germain. Et on pense, quelle surprise produisit l'entrée inattendue d'un légiste, heureusement fort célèbre, mais que la princesse présentait étrangement, en faisant suivre son nom de son rire particulier. « De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau !» Mais était-ce mystification, coquetterie? La petite princesse prenait-elle plaisir à jouir en même temps de l'étonnement de ses hôtes et de son cavalier? Se donnait-elle la comédie de voir entrer un vieux franc-comtois qui sortait rarement de son cabinet dans un salon du noble faubourg? S'amusait-elle de l'air sévère que prendraient de vieilles duchesses à cheval sur leur quartier de noblesse? Reine par la beauté, la princesse avait décidé que chacun la reconnaîtrait pour souveraine. Et 1000 actes compromettants pour toute autre femme ne pouvaient effleurer sa réputation. Pendant un été, elle traîna à enchaîner à son char un poète élégiaque auquel elle adjoignit bientôt un Marocain dont les Français venaient de s'emparer en Algérie. Mais ce fut un singulier attelage que celui d'un poète lymphatique et d'un moricaud qu'elle menait aux Tuileries, aux eaux, jusqu'à ce qu'elle les remplaça par des cavaliers plus divertissants. La fantasque princesse, qui semblait arriver des pays enchantés, commandait à la vie plate et régulière de se changer en imprévue surprise, et tous les êtres en habit noir, là eux-mêmes d'une existence monotone, favorisaient ses caprices, s'en donnant le régal en même temps. La princesse était musicienne, mais elle ne fatiguait pas de sa musique les oreilles de ses invités. Assise au piano, elle devenait particulièrement étrange quand, les mains sur le clavier, jouant quelques sonates pathétiques de Beethoven, elle se retournait brusquement, tout à coup, vers ses auditeurs pour se laisser aller à son rire de mouette. Certainement, elle n'était pas émue et ne s'associait guère aux tourmentes du grand musicien passionné. Quoique le jeu de la princesse fût correct, chacun sentait qu'elle n'avait pas un vif sentiment musical. Il en était du piano comme de la comédie, où la princesse apportait quelque chose de mécanique et d'artificiel qui faisait penser aux automates idéales du conteur Hoffmann. On eût dit qu'un ressort caché donnait une animation factice à ses gestes, et les admirateurs de la petite princesse, quand elle jouait la comédie, avaient hâte que le rideau fût baissé pour s'assurer qu'elle n'était pas une admirable poupée construite par un inventeur ingénieux. Mais cette impression cessait quand la souriante personne reparaissait, enlevait les cœurs de tous par un seul de ses regards nacrés. Et chacun se regardait comme le jouet d'une vision, pour avoir pensé que cette créature idéale put être quelque surprise à ressort. Naturellement, les femmes jalousaient la princesse qui avait sur elle tant d'avantages. Ayant réuni dans les salons des gens de nature si diverse, elle conquit de chauds admirateurs dans chaque classe, et il se trouvait partout des voix pour la défendre. D'ailleurs, sa réputation était couverte par un mari humble, une utilité, personnage muet, qui recevait les invités à leur entrée et disparaissait ses devoirs de maître de maison accomplis. Les toilettes de la petite princesse appartenaient à elle seule. Aucune femme n'eût pu arriver à ces singulières harmonies, toujours élégantes. Par ses charmes extérieurs, le philosophe Maupertuis l'eût reprise pour type de sa Vénus physique. Petite, fine, souple, la princesse se plaisait à jouer habilement et habituellement une comédie antique où la poitrine, à peine voilée par un filet à maille indiscrète, eût certainement troublé les regards si une épaisse chevelure flottant jusqu'aux genoux n'en eût dérobé par instant les contours harmonieux. Et pourtant, le monde parisien, si expert dans la connaissance de l'art de frelater la beauté, n'avait rien pu trouver que d'irréprochable dans les charmes extérieurs d'une femme dont on ne savait pas l'âge. La petite princesse avait-elle 20 ou 30 ans? Légère comme un enfant, capricieuse comme un oiseau, elle n'avait pas changé depuis 15 hivers, bientôt qu'elle tenait le monde élégant en alerte. Depuis 15 ans déjà, cette fée ravissait les yeux de tout Paris, au bois, à l'opéra, dans les salons, et toute la gent artistique l'avait célébrée en vers et en prose, en marbre et en bronze. Une coquette en eût perdu l'esprit. La petite princesse accueillait les plus humbles hommages, et son sourire, qu'elle prodiguait à tous, ne perdait pas de son charme. Elle médisait rarement des autres femmes, opposant à des méchancetés qu'elle n'ignorait pas, une indifférence vraiment souveraine. Et toujours ce rire de mouette se faisait entendre comme un grelot argentin qu'elle agitait pour dissiper les monotones brouillards de la vie. Un événement survint qui, cependant, fit connaître certaines particularités que cachait avec soin la petite princesse. Pendant l'hiver de 1850, elle ne manqua pas une représentation des Italiens. Chacun s'en étonna, connaissant son peu d'enthousiasme pour la musique. Les chroniqueurs qui remplissent de leurs caquets les gazettes de l'étranger et qui parlent volontiers des gens titrés comme s'ils vivaient dans leur intimité, insinuèrent qu'un nouveau ténor avait attendri le cœur de la princesse. C'est là le procédé vulgaire d'un certain journalisme où s'enfantent des commérages pareils à ce qu'on entend dans la loge d'un portier. Le ténor qui débutait cette année n'avait pour tout bagage qu'une voix sans culture. Attribuer à la petite princesse une ombre de caprice pour un chanteur dépassait le but, car si elle avait reçu quelquefois des comédiens chez elle, c'était pour remplir des rôles qu'aucun homme de son cercle n'osait aborder, et un billet de 500 francs, qui était le cachet habituel du comédien, dispensait la fée de toute reconnaissance. Un motif devait attirer pourtant la princesse aux Italiens, où, contre les lois de l'étiquette, elle arrivait avant que le rideau fût levé. Les habitués se mirent à l'affût de ces mystérieux croisements de regards qui, malgré leur soudaineté, ne parviennent guère à garder un secret. Les yeux de la princesse n'avaient rien de particulièrement mélancolique, et certainement la passion ne les troublait pas. Ils paraissaient s'intéresser surtout au manège de l'orchestre, à la pantomime des archets maniés par des mains habiles, grimpant et descendant sur les cordes des violons avec d'alertes prestesses. Ce qui occupait la princesse, personne ne le devina. Était-ce l'armée d'instruments qui grondent, babillent, tonnent, s'arrêtent, reprennent leur course, posent une note timide comme l'oiseau sur le sable, fuient, chantent tour à tour le plaisir, la douleur, la tristesse de l'âme, la sensualité de la chair, vibrent glorieusement dans leur pavillon de cuivre, marchent isolés, se réunissent en groupe et font succéder des accents célestes à des chants de guerre tumultueux. La petite princesse voulait-elle se rendre compte des subtilités des violons aussi capricieux qu'elle, du mordant des contrebasses, de la voix grave des altos? Les accents mélancoliques qui s'échappent de la poitrine des violoncelles lui faisaient-ils éprouver des vibrations particulières? S'intéressait-elle aux unissons de flûtes, de cordes, au bois et de clarinettes qui vivent en si parfaite intelligence? Frissonnait-elle aux ensembles éclatants d'un maître dont la fortune était grande alors, et qui, avec des cris passionnés, n'échappait pas toujours à la vulgarité? Ces contemplations prolongées dans l'orchestre amenèrent des commentaires sans nombre que l'on se garda bien de soumettre à la princesse, car elle eut certainement répondu par son rire de mouette déconcertant. Les musiciens qui peuplent les orchestres des théâtres ont autre chose en tête que les partitions que par métier ils sont condamnés à jouer une centaine de fois. Pour se distraire, les uns lisent des romans, les autres crayonnent les plus pauvres copies de la musique. Ceux-ci sont en quête d'invention pour mystifier leurs camarades. Ceux-là, la lorgnette en main, se croient le public et sont au courant des habitudes du public aristocratique et musical des Italiens. La petite princesse fut observée principalement par un homme à qui sa position dans l'orchestre donnait de nombreux loisirs. Quoiqu'il s'agisse de descendre au dernier degré de l'échelle musicale et que le conteur s'attende à être taxé de vulgarité, il en prend résolument son parti, ayant par devers lui des preuves positives qu'il garde comme témoignage que la bizarrerie cherchée n'est pas le motif du présent récit. L'être qui a le plus de loisirs dans l'orchestre est la grosse caisse. Les compositeurs modernes ont un peu secoué son apathie naturelle, mais il n'en reste pas moins à la grosse caisse d'heureux moments de farniente. Sous une apparence matérielle et détachée des plaisirs mondains, le musicien cachait de vives curiosités qui furent éveillées par l'attention profonde que la petite princesse apportait à regarder l'orchestre. Ce bonhomme, accomplissant ses fonctions avec la régularité d'un teneur de livre, pouvait se livrer à sa curiosité naturelle pendant les nombreux tassets de sa partition. s'étant assuré que les regards de la princesse ne se portaient ni sur le public, ni sur la scène, ni sur les instruments à vent, ni sur les instruments à cordes, il fut longtemps à s'avouer la vérité. La princesse ne le quittait pas des yeux. Étrange aventure, qui certainement n'était arrivée jusque-là à aucune grosse caisse. L'homme refusa d'y croire. Il avait trop conscience de l'infériorité de sa position dans l'orchestre. Ah, s'il se fût agi du chef d'attaque des violons, qu'y eût-il d'étonnant à ce qu'une femme l'eût remarqué? C'était un joli garçon, jeune, élancé, aux mains fines, reliés aux bras par des attaches souples et élégantes. L'instrument, fixé à la poitrine par un menton d'un joli dessin, ne cachait qu'à demi un col élégant dont la blancheur était rehaussée par la sombre couleur de l'instrument. Et comme l'art ne devait pas tarder à en faire un de ses plus fidèles servants, la passion animait son archet et rendait par de belles phrases les accents pathétiques des maîtres. D'abord, la grosse caisse avait cru que les regards de la princesse s'adressaient au jeune artiste, et il n'en fut pas envieux. Le talent attire la beauté, et le violoniste était digne d'être distingué par une femme enthousiaste. La grosse caisse n'en eut pas témoigné de jalousie. Il est d'humbles et rares natures qui, se jugeant avec trop de modestie, appelle sur les autres des faveurs dont elle ne se croit pas digne. L'homme en question applaudissait à l'enlèvement d'un violoniste par la princesse. Il souriait de lui voir aplanir des difficultés matérielles qui trop souvent arrêtent l'essor d'un artiste perdu dans un orchestre. Et il hésita quelque temps à prévenir de son heureuse étoile le violon, qui, tournant le dos à la loge où était accoudée la princesse, n'avait pu voir le manège de ses regards. Mais il était certain que la princesse ne témoignait aucun intérêt au violoniste. Tous ses regards étaient concentrés, il n'y avait pas à s'y méprendre, dans le coin de droite où, seul, avec un petit imbalier, la grosse caisse faisait loyalement sa partie. Quelle aventure pour un homme qui, depuis 10 ans de service aux Italiens, n'avait jamais entendu un mot d'encouragement. Ses camarades se félicitaient mutuellement sur un passage bien rendu, un train, un bel arpège, un solo. Mais les seules paroles que recueillait le musicien étaient des exclamations méprisantes des habitués de l'orchestre, qui, se trouvant trop près de lui, s'écriaient sans crainte de blesser son amour-propre: « Oh, cette grosse caisse est vraiment insupportable !» S'il n'avait pas obéi au coup d'archet du chef d'orchestre, quel esclandre! On l'eût traité comme le dernier des machinistes. Il remplissait son devoir très scrupuleusement, et jamais on ne parut remarquer sa ponctualité. Le modeste musicien voulut douter des regards de la princesse, se regarda dans le miroir de sa pauvre mansarde, et se dit qu'aucune bonne fortune semblable n'était arrivée à ces grosses caisses méprisées, dont il n'est fait mention dans nulle biographie musicale. Et il en conclut qu'une hallucination s'était emparée de ses yeux et qui lui faisait croire qu'une grande dame s'intéressait à son mérite. Pourtant, la princesse le regardait avec des yeux pleins de tendresse, et quand il saisissait son tampon, il recueillait les sourires enflammés de la fée. Bien des fois, le pauvre homme s'en alla la tête basse, rêvant à ce mystère. Sa tête s'égrait à chercher les raisons qui lui valaient des regards à le faire pâmer. Désespérant de trouver en lui des éclaircissements, le musicien résolut de s'en ouvrir au seul camarade qui eut dans l'orchestre une contrebasse, homme grave et sérieux. Se défiant de ses visions, la grosse caisse voulait mettre 2 yeux prudents aux aguets afin de connaître s'il n'était pas victime d'une illusion. L'ami, honnête, père de famille, également en dehors des intrigues de théâtre, reçut, non sans stupéfaction, cette confidence et conseilla à son camarade de se tourner du côté de la scène pour échapper à des regards si dangereux au cas où ils auraient quelque fondement. Mais dès le même soir, la contrebasse reconnut que le musicien ne s'était pas trompé. Attentive, la tête penchée vers l'orchestre, la princesse suivait d'un œil enthousiaste chaque mouvement de la grosse caisse, et son visage s'illuminait étrangement quand l'homme prenait son tampon. Il sembla même à la contrebasse que par un mouvement simultané, la princesse agita le bras en même temps que frappait le paon retentissant, et une sorte d'extase parut sur les traits de la fée, comme si ce fût elle-même qui eût donné un coup suprême sur la peau de l'instrument. Un duo d'amour ayant succédé, qui commandait à la grosse caisse de rentrer dans le silence, le sourire disparut des lèvres de la princesse désenchantée. Et le soir, les deux musiciens s'en allèrent épiloguant sur cette singularité. Mais le calme était sorti de l'esprit de la pauvre grosse caisse. Qu'on se représente un homme de 44 ans, d'un extérieur médiocre, sans prétention, n'ayant jamais eu de bonne fortune, qui se trouve sous le coup des regards assidus d'une femme à la mode, jeune, riche, dont l'arrivée au balcon produit une vive sensation dans la salle. Plus les œillades redoublaient, plus le pauvre homme se sentait intimidé. L'honnête musicien cherchait ce qui avait pu séduire une grande dame, et ne trouvait pas dans son extérieur matière à pareil caprice. Mais son cœur n'en était pas moins caressé par de douces chaleurs. Et maintenant, c'était avec une joie ineffable qu'il entrait dans l'orchestre par la petite porte noire du dessous du théâtre, qui prenait la teinte d'un paradis. Ses sens avaient acquis des perceptions particulières. Il entendait les pas de la princesse sur le tapis du corridor avant qu'elle fût entrée au balcon. Il sentait son bouquet de fleurs entre tous les bouquets de la salle. Et lui, qui frappait d'habitude la peau de son instrument avec une sérénité olympienne, n'arrivait plus devant son pupitre que plein d'émotion, craignant de commettre quelque faute. Ses pauses, il avait besoin de les compter aujourd'hui, car tant de jolies pensées se jouaient dans son esprit qu'il ne suivait plus le drame de la scène. Et comme l'amour est une sorte d'hallucination, l'homme tremblait de frapper à contre-mesure ou de commettre une de ces queues honteuses qui déshonorent un musicien. Toute la salle disparaissait maintenant. Le lustre, le public des loges, le chef d'orchestre, jusqu'au timbalier placé à ses côtés. Une seule personne était visible, la petite princesse, que le musicien entrevoyait dans un Élysée féerique, plus adorable encore qu'elle ne l'était en réalité. Quant à lui, il doutait s'il vivait, s'il voyait, s'il entendait, et il marchait dans une sorte d'atmosphère impalpable. Cependant, la contrebasse l'emmenait tous les soirs et lui tenait de raisonnables discours, sentant bien que l'homme nageait dans le bleu et perdait de vue la terre ferme. En ami dévoué, le brave musicien écoutait les folies de la grosse caisse, qui, après tant de muettes extases, avait besoin d'un cœur pour s'épancher. Un jour, pourtant, l'amoureux disparut tout à coup. S'élançant dans le dessous du théâtre, sans rien dire de son projet, il s'enfuit pour attendre la princesse à sa sortie. Après avoir écarté laquais et curieux qui encombrent le péristyle, il arriva au moment où la fée, suivie de deux grands valets qui la protégeaient contre la foule, s'enveloppait de fourrure, et il sembla au pauvre musicien qu'il avait été vu et qu'un sourire d'adieu accueillait son audace. L'homme rentra chez lui sous le coup d'émotions nouvelles. Remarqué par la princesse, il n'avait pas reçu un de ces regards méprisants auxquels il s'attendait. Ce furent encore de nouvelles confidences à la contrebasse, qui les accueillit d'un air soucieux. Ce musicien était plein de bon sens. L'habitude de marquer la mesure et d'élever autour des instruments capricieux une sorte de muraille impossible à franchir avait communiqué à tous les actes de sa vie une précision dont il ne s'épartait jamais. Il fit entendre à la grosse caisse que ses entrevues, dangereuses pour son repos, devaient rester sans résultat. Et l'amoureux baissait la tête, sentant que son camarade avait raison. Un nouvel incident advint qui troubla pourtant la sage contrebasse. Un soir, la princesse ne parut pas au balcon à l'heure accoutumée. Et déjà la pâleur couvrait la figure inquiète de la grosse caisse, lorsqu'une odeur particulière et troublante le fit détourner subitement, en même temps que grinçait la porte d'une loge du rez-de-chaussée d'avant-scène. La petite princesse venait de s'installer à deux pas de lui. Une flamme subite embrasa la poitrine du pauvre homme, qui s'appuya sur son instrument car il craignait de tomber. Ses tempes battaient et son cœur bondissait. Un courant électrique faisait bouillonner son sang et l'anéantissait de bonheur. Phénomène si visible que la contrebasse s'en aperçut. « Qu'as-tu ? » dit-il à son camarade qui venait de s'asseoir, quand il eut dû se tenir debout pour le début d'une marche héroïque. « Tu te trouves mal ?»« Oh, trop bien !» murmura l'homme avec un clin d'œil significatif pour faire comprendre la situation à son ami. L'honnête père de famille fut pris lui-même d'un certain vertige. Dans la petite loge du rez-de-chaussée, la princesse, souriante, était là, si près des musiciens qu'elle eût pu toucher la grosse enroulée d'une contrebasse reposant dans son collier de fer, qu'on n'employait que dans de rares occasions. « Sois prudent !» dit à demi-voix la contrebasse à l'amoureux. Mais son cœur était trop plein d'ivresse. Accablée sous le poids de son bonheur, la grosse caisse commit une légère faute musicale. Et ce furent des éclairs que lui lança le chef d'orchestre, qui le menaça de son archet comme d'une cravache. En ce moment, la grosse caisse eut étranglé son supérieur. Il était déshonoré publiquement aux yeux de celle qu'il adorait, de celle qui s'était rapprochée de lui. Les veines du musicien se gonflèrent, et un puissant tutti, où une note admirablement trouvée par le compositeur rendait un lyrique enthousiasme. L'homme, voulant faire oublier par son zèle la faute qu'intérieurement il se reprochait, lança un coup si formidable que la peau tendue creva avec son immense déchirement. « Si, 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 oh, 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 tiou, tiou, si, si !» fit la petite princesse, qui sortit de sa loge comme un médecin de la maison d'un mort. L'aventure circula dans l'orchestre après le départ de la grosse caisse qui reçut son congé, et ce mystère fut resté sans éclaircissement si la contrebasse en eut plus tard donné la clé. D'humeur voyageuse, le musicien s'engageait volontiers l'été pour des concerts à l'étranger. Le hasard l'amena à Roquebrune, où il retrouva la petite princesse qui, chaque année, passait un mois dans une propriété qui lui appartenait. Là recommençaient les fêtes parisiennes, les bals, les spectacles, dont un journal rédigé par la princesse et ses amis rendait compte spécialement. Cette femme capricieuse se piquait de littérature, et en effet, on connaît d'elle des morceaux écrits avec une certaine finesse, comme le prouve le fragment suivant. « Dans un orchestre, je l'avoue, c'est la grosse caisse qui m'occupe le plus. J'y trouve l'intervention imprévue, le dieu de la machine qui se manifeste dans les grandes circonstances. Le reste de l'orchestre se livre à une course désordonnée et sans arrêt. Ce ne sont que trilles, fugues, trémolos. Mais au moment solennel, la grosse caisse élève la voix à son tour. Quelle force! Quelle majesté! Quel effet! Pendant que les autres instruments courent, se heurtent et font tapage comme les souris en l'absence du chat, il attend avec dignité, il compte, il se dit. 15, attention, 16, allez toujours, pauvre musicien. 17, oh, c'est bientôt mon tour. 18, nous allons rire tout à l'heure. 19, voilà un violon qui joue faux. 20, boum! Du drame des Italiens, il n'était pas question. Ce cœur brisé, qui avait fait d'explosion avec l'instrument, la petite princesse ne paraissait pas l'avoir remarqué. Et comme un dilettante s'étonnait de l'enthousiasme d'une femme pour un instrument si bruyant. « Mais ignorez-vous, lui dit un des intimes de la princesse, qu'elle est sourde !» Chant fleurit.